pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Du 16 juillet au 11 août 2024 se dérouleront en France les Jeux Olympiques 2024 et suivront en septembre les Jeux Paralympiques. Le 11 janvier 2024 se tenait à la librairie Bourlinguet à Saint-Denis une rencontre sur les saccages olympiques et paralympiques. Cette rencontre avait pour but de défaire le mythe des Jeux Olympiques et Paralympiques, soi-disant inclusifs, les plus verts de l'histoire. C'est une rencontre organisée avec le collectif Saccage 2024 qui lutte contre les saccages des Jeux Olympiques et Paralympiques avec le Chiffon, le journal de Paname et de sa banlieue, qui vient de sortir un hors-série sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'objectif de cette rencontre à Saint-Denis, lieu phare des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, est de proposer une autre analyse des JOP, considérés comme destructeurs à tous les niveaux, économiques, social, écologique, mais aussi sécuritaire. Et dans l'émission de ce jour, nous vous proposons l'écoute d'une grande partie de cette rencontre. Mais avant cela, on va vous proposer une archive. Les Jeux Olympiques sont liés aussi avec Pierre de Coubertin. Et nous allons entendre une archive de 1935, avec la voix de Pierre de Coubertin, où il parlait du rapport des femmes au sport. Et ensuite, nous débuterons l'écoute de cette rencontre sur les Jeux Olympiques et Paralympiques à Saint-Denis. Bonne écoute.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Là aussi, les femmes pourraient participer si on le juge nécessaire. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Je conçois l'olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d'altise morale, de bourbe sacrée, où sont réunis pour affronter leurs forces les concurrents des sports virils par excellence, des sports qui visent la défense de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, sur le péril, sur les éléments, sur l'animal, sur la vie. On doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
Saccage 2024 est un collectif qui existe depuis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, 2016. Et c'est un collectif qui documente la réalité des Jeux à côté des discours. Je ne sais pas si quelqu'un tirera profit de cette soirée, sinon l'esprit critique, d'une manière générale. Voilà.
En vitesse, nous, c'est l'association de quartier. Loi 1905 à but non lucratif. Donc ceux qui n'ont rien amené, ils auront quand même quelque chose. Que dire encore? On fait des petits trucs comme ça. Des fois du rock'n'roll. On vend beaucoup de livres. On vend aussi beaucoup de livres. Il y a 30 000 références là, en tout. Mais c'est des petits prix pas chers pour la région, quoi. On essaie de relever le niveau un peu de nos pauvres enfants qui se sentent mal à l'école quand même. Avec des prix pas chers. Mais j'ai des boîtes à livres tout autour là. Voilà, sinon on reçoit donc là nos amis, je connais bien Colline. Enfin un peu mieux que Saccage, je connais pas. Mais bienvenue. Hein. Comme moi je suis assez pas trop JO en fait. Donc j'ai dit tiens pourquoi pas. Voilà, pour moi c'est tout. Bienvenue.
Merci. Je fais rapidement un petit tour de présentation. Donc vous avez tous entendu sur le chiffon ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. C'est que c'est un journal qui est vendu, qui est trimestriel, qui est sur papier, comme vous pouvez le constater. On ne s'est pas trompé de siècle, on ne s'est pas trompé de millénaire, on sait ce qu'on fait en faisant ça. Il se trouve que la réaction de notre lectorat est extrêmement positive à l'égard de cet objet, qui permet entre autres choses de tenir des rencontres. Parce que c'est sympa, la matérialité, je veux dire, par rapport à l'idée de s'organiser sur des écrans. Ce journal a été fondé en 2019, il se vendait à la criée en manifestation. Vous vous souvenez à peu près de 2019, 2020, 2021, ça s'est moins vendu. Mais donc on a repris il y a 2 ans avec une équipe recomposée. Gary est un des co-initiateurs de cette activité. Nous traitons de l'actualité, pas l'actualité chaude, une actualité au long cours, par trimestre donc, de l'Île-de-France, c'est-à-dire de Paris et sa banlieue et la grande banlieue. Ce périmètre géographique est intéressant parce qu'il permet de faire une contre-géographie par rapport à l'administration et son périmètre géographique du Grand Paris, qui n'existe en vérité que par les lignes du Grand Paris Express, lesquelles rencontrent toutes, où qu'elles s'implantent, des oppositions et des luttes. De sorte que notre journal nous sert aussi à documenter des points nodaux de lutte. Et c'est une autre cartographie de l'Île-de-France qui s'établit, c'est pas celle du Grand Paris avec ses projections. Alors, le mot n'est plus employé, mais au départ, le Grand Paris était divisé en clusters, c'est-à-dire des zones d'activité. Saint-Denis faisant partie au nord de la zone culturelle et créative, par exemple, et que la Défense était plus occupée à, par exemple, faire de la finance. Évidemment, on comprend bien la limite d'un discours officiel, hein, quand tout à coup le Grand Paris c'était des clusters, hop, bizarrement ce terme n'est plus employé. Voilà, donc ça fait partie des choses amusantes qui appellent cette contre-géographie. Voilà.
Bon. Alors on a une présentation donc de par Saccage 2024 qu'on remercie d'être présent ce soir.
Bonjour à tous et à toutes déjà. Moi je suis Arthur, je suis membre du collectif Saccage 24. Alors c'est un collectif, on le disait tout à l'heure, qui est né en novembre 2020. Alors c'est né, c'était un intercollectif qui rassemblait des collectifs en lutte contre des projets en lien avec les Jeux Olympiques. Donc je pense notamment au Jardin Ouvrier d'Aubervilliers, je pense à l'Air des Vents à Duny, et je pense à Carrefour Pleyel, que vous connaissez, qui est juste à côté d'ici, où il y a une école qui est encerclée par un échangeur autoroutier pour les Jeux Olympiques. Donc c'était 3 luttes locales, mais il y avait aussi d'autres collectifs, notamment le comité de vigilance des JO 2024, des associations d'habitants et d'habitantes, des syndicats, voilà. Donc, et aussi des collectifs écolos un peu plus larges, Youth for Climate, Mouvement National de lutte pour l'environnement 93, etc. La première action du collectif Saccage 24, ça a été un toxic tour. Alors c'est une genre de manif où on fait des pauses pour faire des petits moments informatifs, un peu comme à mi-chemin entre la visite touristique et la manif, si on veut, un toxic tour. Et donc c'était un toxic tour dans le quartier Pleyel pour montrer un peu les changements que faisaient les Jeux Olympiques dans ce quartier. Alors j'imagine que pour la plupart vous connaissez bien le quartier Pleyel et que voir les changements qui ont cours n'a pas besoin d'explication, suffit d'y passer. Et donc c'était en novembre 2020 et c'était à l'occasion d'un appel contre la réintoxication du monde qui était lancé, vous vous souvenez toujours de ce qui s'est passé en 2020, donc qui était lancé après les confinements, un appel à mobilisation, surtout notamment autour de l'écologie. Au fur et à mesure, Saccage 24 a continué à faire des actions dans d'autres quartiers, des toxitos dans d'autres quartiers, aussi des actions d'information, etc. On a créé de la documentation aussi. D'un intercollectif, Saccage 24 s'est peu à peu transformé en collectif, tout court, qui est toujours en lien avec les collectifs hein, qui est de l'origine, mais qui est, maintenant est vraiment un collectif à part entière, un collectif d'habitants et d'habitantes, militants et militantes. Et alors qu'à l'origine, la position de Saccage 24, c'était vraiment une position contre les saccages provoqués par les Jeux Olympiques, la position s'est peu à peu transformée vers une position contre les Jeux Olympiques tout court. Et si on devait marquer un moment où il y a eu ce changement de cap, c'était en mai 2022, où on a organisé des rencontres internationales anti-olympiques à Paris 8, où il y avait des militants du monde entier qui sont venus nous raconter ce qu'ont fait les Jeux Olympiques là où ils habitent. Donc il y avait des militants de Tokyo, il y avait des personnes qui avaient vécu les Jeux de Sochi, il y avait des personnes qui avaient vécu les Jeux de Londres. Donc voilà, il y avait des personnes du monde entier qui on a pu pas mal partager. Au fur et à mesure, quand même, on s'est dit que ça serait bien d'avoir des objectifs à peu près formalisés dans notre collectif. Et donc aujourd'hui, je suis capable de vous dire trois objectifs qu'on a à Saccage 24. Un objectif qui est de soutenir et créer des foyers de contestation en lutte contre les Jeux Olympiques. Donc soutenir des foyers de contestation, ça peut être de soutenir les mobilisations locales dont je parlais tout à l'heure. Récemment, ça vous a peut-être pas échappé, il y a eu une grève sur les chantiers des Jeux Olympiques, notamment à l'Arena Porte de la Chapelle, où des travailleurs sans papier ont fait une grève éclair et a mené à une réussite. Enfin, en tout cas, les revendications ont été entendues par les donneurs d'ordre, même si c'est pas encore suivi par les faits encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un chemin vert. C'est de soutenir en fait des foyers et de créer. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment créé des mobilisations, mais en tout cas. Et surtout dans le soutien aux mobilisations en lien avec les Jeux Olympiques. Premier objectif. Deuxième objectif, ça va être de construire du savoir anti-olympique contre les Jeux de Paris, mais contre les Jeux tout court. Et un troisième objectif qui est lié au second, qui est de faire de la propagande, de diffuser toutes ces infos qu'on essaie d'accumuler. Moi aussi, j'ai un objet physique à vous montrer. On a fait une petite carte cet été. Enfin, une petite carte. Une carte qu'on a appelée la carte des saccages olympiques. Ça met un peu en image ce que je viens de vous raconter. En fait, à chaque fois qu'on commençait à faire des présentations un peu comme ce soir sur qu'est-ce que font les JO, on était toujours un peu confronté à cette idée que on a du mal à le visualiser en fait. Et donc on a fait cette carte pour essayer de visualiser. Donc c'est une carte qui n'est pas géographiquement correcte, hein, vous le remarquez tout de suite. C'est une carte qui ne montre pas que les saccages qui ont lieu sur le territoire, je veux dire physiquement, mais ça parle aussi des lois, des budgets, etc. Bon bref, vous verrez, c'est un truc un peu fouillis, c'est autant à lire qu'à regarder. Et elles sont aussi dans toutes les bonnes librairies, normalement. Voilà pour la présentation du collectif. Je propose de commencer par un petit quiz. Est-ce que vous savez combien, à la volée, hein, on va pas lever la main, mais combien d'éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques a accueilli la France ? 5 ? 1 ? 5 ?
9.
Non, donc c'est 5. J'ai entendu 5. Il y a en effet 2 à Paris pour les Jeux d'été en 1900 et en 1924. Et 3 éditions d'hiver, Chamonix 1924, Grenoble 68 et Albertville 92. Sachant que...
Ça fait
6 avec 7. 6 mais qui n'a pas encore eu lieu, qui n'aura pas lieu. Les prochains Jeux Olympiques, donc il y a Paris, évidemment, après Paris. Est-ce que vous savez où est-ce que ce sera ? Milan, ouais.
Un truc d'hiver, mais au milieu du désert.
Ça, c'était les Jeux d'hiver. C'est pas pendant les Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques, ouais. C'est pas les Jeux paralympiques. Alors, les prochains, c'est Milan, en 2026. Ensuite, Los Angeles, en été 2028. Et malheureusement, peut-être, les régions PACA et AURA en 2030. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et... probablement Brisbane en 2032. Le budget ? Des idées du budget ? De Paris 2024 ?
Beaucoup,
trop. Plus que prévu, ça c'est sûr. Le chiffre qui est annoncé encore aujourd'hui, enfin là, mon truc, il date de novembre 2023. Le chiffre qui était annoncé en novembre 2023. Ouais, c'est ça, c'est 8,7 milliards, quasiment 9. Sûrement qu'on va finir à 11 milliards, sûrement. Mais là, en tout cas, on est officiellement à 8,7. Dans le dossier de candidature, on parlait de à peine 6 milliards. Je rentrerai dans le détail du budget un peu plus tard. Combien de temps ça dure ? Et les dates, à peu près, les Jeux Olympiques ? Ouais.
En ressenti,
20 ans. Ouais, je parle aussi des Paralympiques, ouais.
Ça fait 2 fois 15 jours.
2 fois 2 semaines, c'est ça. Donc là, c'est du 26 juillet au 11 août, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, du 28 août au 9 septembre. Donc vous voyez que ça finit au moment de la rentrée scolaire. Combien de spectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture ? Donc vous savez qu'elle a lieu sur la scène. Ouais, c'est ça, vous êtes fort, hein ? 600 000. 600 000 personnes attendues pour la cérémonie d'ouverture le long de la scène. Et 1 milliard de téléspectateurs.
Un petite histoire pour la cérémonie d'ouverture, ça a été, je crois, réglé et réalisé par la personne qui a repris Starmania.
Thomas Joly, ouais. Joly, voilà. Là, nous, à Saint-Denis, c'était une question qui nous intéresse moins, mais on aime bien la rappeler parce que ça s'appelle les Jeux Olympiques, enfin, ça s'appelle les Jeux de Paris. Est-ce que vous savez sur quel territoire vont avoir lieu ces Jeux Olympiques ? Alors, il y a Saint-Denis, évidemment,
Marseille, Tahiti,
Châteauroux, en effet, pour les épreuves de tir. Il y a Lille, Saint-Étienne, il y a la Flamme Olympique qui passe dans une bonne partie des départements français. Il y en a quand même 37 qui ont refusé. Parce que bon, quand même, faire passer la Flamme Olympique dans son département, c'est 180 000 euros. Pour la Creuse, c'est plus que le budget sport sur l'année, par exemple.
Oui, mais ça impulse du sport.
Les chiffres, c'est toujours un peu compliqué à entendre. Surtout quand on parle de gros chiffres comme ça là, pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça que je voulais avoir un petit vidéo proche pour montrer les graphiques. Donc là, c'est les éditions des Jeux, vous l'avez compris. En vert, c'est prévisionnel. En vert plus rouge, c'est le budget définitif. Donc on voit que ça dépasse systématiquement, que depuis 2004, il y a vraiment une explosion des coûts. Et donc voilà, qu'il y a des dépassements à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque édition, etc. On peut quand même quelques-uns. Sochi, c'est 35 milliards, quand même. Rio, c'est 15 milliards. Pékin, ici, c'est 30 milliards. Tout à l'heure, il était demandé qu'est-ce que ça veut dire le budget des Olympiques, 8 milliards pour Paris, 8,7 milliards. Alors, il faut séparer le budget en deux parce qu'il y a deux structures qui organisent les Jeux Olympiques, mais ça, peut-être que c'est acquis, peut-être. Il y a le COJO et la Solideo. Le COJOP et Solideo. COJOP, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est eux qui vont vraiment organiser le truc. C'est eux aussi qui s'occupent des infrastructures éphémères. Le COJOP, donc, qui est présidé par Tony Estanguet, et la Solideo, qui est Société de livraison des ouvrages olympiques, et qui, elle, est chargée de construire pour les Jeux Olympiques. On reviendra après sur construire, qu'est-ce que ça veut dire, etc., quand on parlera plutôt de l'écologie. Donc c'est un établissement public qui est présidé par Anne Hidalgo, qui avait dit qu'en 2015, les Jeux Olympiques, c'était une mauvaise idée, qu'il ne fallait pas les accueillir, etc. Donc en tout cas, aujourd'hui, elle préside la Solideo. La Solideo, c'est vraiment l'infrastructure qui construit. Et le budget, et c'est là qu'ils sont malins, c'est que comme une partie des infrastructures qui sont construites par la Solideo vont être réutilisées après les Jeux Olympiques, et donc évidemment, il y a énormément de financement public dans la Solideo, donc ils estiment qu'il y a une partie des choses qui sont construites pour les Jeux Olympiques qui, comme elles sont laissées après, ça justifie d'utiliser de l'argent public, puisque ça sera un héritage. Et c'est justifié notamment en disant que la Seine-Saint-Denis est particulièrement peu dotée en infrastructures et que les JO permettent que la Seine-Saint-Denis rattrape son retard. C'est en 2014 où Anne Hidalgo avait dit, je cite, « Les Jeux, ça coûte cher, y compris la candidature, en soi coûte cher. Et les Jeux dispendieux, je crois que ce n'est plus du tout d'actualité. »
Visionnaire.
Visionnaire, ouais. En fait, le slogan « Les Jeux payent les Jeux », c'est un slogan qui concerne plutôt le COJOP, parce que dans le COJOP, il y a des partenaires, donc il y a des sponsors, et c'est aussi eux qui récupèrent les revenus de la billetterie. Le COJOP fonctionne un peu plus sur de l'argent privé que la Solideo. Je parlais un peu tout à l'heure de jeux d'hiver. Albertville 92, c'était 3,2 milliards de francs. Du coup, on se dit, bon, bah, ça coûte très cher les Jeux Olympiques, donc ça veut dire que ça va rapporter beaucoup d'argent. Alors, nous, on dit que les Jeux Olympiques rapportent de l'argent à cette petite brochette. Donc, c'est les sponsors des Jeux Olympiques, eux. Alors, vous savez que Hidalgo, toujours, hein, a refusé que Total soit sponsor des Jeux Olympiques. Ça a été vanté comme étant une prise de position incroyable, etc. Bon, nous, on pense que c'est tout du greenwashing, parce que quand on regarde la liste effective des sponsors des Jeux Olympiques, on voit à peu près par qui c'est habité. Alors, il y a Airbnb, évidemment, Coca-Cola... Toyota, EDF, Carrefour, vous avez vu récemment, On a LVMH qui s'est rajouté aussi à la liste. Et donc, tous ces sponsors-là vont avoir plein de dérogations, finalement, qui leur permettront, par exemple, d'afficher leur publicité sur des monuments historiques, parce que le COJOP peut afficher de la documentation sur les monuments historiques. Et donc, comme le COJOP, c'est les sponsors, forcément, ça fait que, par effet, les sponsors peuvent être sur les monuments historiques. Je pense à Coca-Cola aussi. Vous avez peut-être vu cet été où Coca-Cola avait carrément un énorme stand hein, devant la basilique de Saint-Denis, parce que c'est Coca-Cola qui s'occupe du relais de la flamme olympique. Et donc, pour recruter des personnes pour porter la flamme olympique, il y a des villages Coca-Cola qui arrivent un peu partout en France. Et donc, il y en avait un cet été devant la basilique qui est resté, je crois, à peu près 3-4 jours, hein, avec des logos Coca-Cola partout et Fusti, parce que c'est le même groupe. Les Jeux Olympiques, ça rapporte aussi évidemment de l'argent aux promoteurs immobiliers et aux grosses entreprises du BTP. Alors là, évidemment, on est à Saint-Denis, donc pour la plupart, vous savez les gros chantiers que ça implique. Vous avez vu la piscine, vous connaissez le complexe aquatique olympique là en face du Stade de France, vous le connaissez, vous savez que c'est un chantier énorme. Vous connaissez aussi le chantier à Porte de la Chapelle et les villages, le village olympique aussi qui est énorme, qui est le plus gros chantier de France. Le village des médias aussi, bon, on va pas tout citer. Ça rapporte beaucoup d'argent à la télévision aussi, hein, vous savez. Alors les Jeux Olympiques, les promoteurs des Jeux disent qu'un humain sur deux regarde les Jeux Olympiques. Donc à la télé. Hein. Et oui, et le CIO aussi, je vous ai pas encore parlé du CIO, donc, qui est le Comité International Olympique. Donc c'est eux qui, donc c'est l'organe international des Jeux Olympiques, c'est eux qui décident des villes hautes, qui disent les règles, qui font le cahier des charges, etc. Et donc en fait les Jeux Olympiques c'est une marque déposée, donc évidemment les Jeux Olympiques font gagner de l'argent au CIO qui est une entreprise de droit suisse, enfin quand même une ONG de droit suisse qui donc a des comptes qui sont pas publiés, on connaît pas les comptes du CIO. Tous ces membres sont censés être bénévoles mais ont des gratifications. Parfois, il y a des chiffres qui sortent qui sont... j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est mirobolant. Donc ça, c'était un peu sur le côté économique.
Excuse-moi, sur le plan économique, je voudrais apporter une petite précision qui nous concerne tous. Je suis présidente de l'Union des associations des riverains du Stade de France, qui regroupe 10 associations autour du Stade de France. J'ai quelques éléments donc sur le sujet. En particulier, ce qui m'a frappé, c'est que le test de la World Cup Rugby, là, cette année, pour parler français du mondial de rugby, devait servir de test. Et effectivement, j'ai apprécié, si vous voulez, que la propreté avait été assurée par, je crois que c'était l'entreprise de Richebourg qui ramassait tout ce qui était jeté par les flux de piétons. Voilà. Et donc, j'ai posé tout de suite la question, qui prend en charge cette propreté? Eh bien, c'est nous. C'est les contribuables locaux qui finance la propreté. Donc pour le mondial de rugby, c'est acté et ça va être bis repetita, la même chose pour les JOP. Donc nous contribuons aussi sur un plan très très important parce que la propreté c'est quand même un point quand il y a des 80 000 spectateurs qui défilent, c'est quand même énorme. Voilà, donc je tenais à apporter cette précision.
C'est pas compté dans le budget des 8,7 milliards. Hein. Le nettoyage, la flamme olympique, tout, en fait, tout ce qui est pris en charge par les collectivités pour le fonctionnement des Jeux Olympiques, aussi la surveillance en plus, les militaires en plus, tout ça. Alors, bon, ça dépend, il y a certaines parties de la protection des militaires qui est assurée par le COJOP, mais pour la plupart, c'est pas pris en charge dans les 8,7 milliards. Donc. Il y a plein de dépenses en fait invisibles. Alors mon deuxième chapitre, donc là c'était sur le budget, mon deuxième chapitre c'est plutôt sur le social. Je vais commencer par vous parler un peu des jeux précédents. En 2008 à Pékin, pour construire le village olympique, ils ont expulsé plus d'un millier de personnes. À Vancouver en 2010, c'est 1200 logements sociaux qui ont été réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. En 2012 à Londres, c'est 1000 personnes qui ont été expulsées. Notamment 450 personnes en logements sociaux. 2014, Sochi, C'est 3000 personnes expropriées, officiellement. Hein. 2016, bon, alors ça, à Rio, vous le savez, ça a été 119 favelas rasées. 77 000 Brésiliens ont perdu leur toit. 25 000 familles déplacées en périphérie de la ville. Et Tokyo, qui a eu lieu en 2020, mais qui a eu lieu en 2021, il y a des résidents qui ont été déplacés deux fois, en 1964 pour les Jeux Olympiques et en 2020 pour les Jeux Olympiques. Et beaucoup n'ont pas été relogés. Alors là, c'est des exemples un peu, voilà, mais je pense que c'est important de les dire. Et évidemment, en 2024, pour la France, même si évidemment c'est pas les mêmes mesures que Rio ou que Sochi, on a aussi des expulsions. Il y a le foyer ADEF, que peut-être certains connaissent, qui était un foyer patron du quartier Pleyel, où il y avait 300 travailleurs nouvellement arrivés en France, travailleurs migrants, qui étaient logés dans ce foyer. Alors 300, c'était le nombre de personnes avec un titre, mais je crois qu'il y avait en réalité plus de 350 personnes. En tout cas, il y avait des personnes qui étaient hébergées par des amis, etc. Ça a été détruit, hein, le foyer ADEF. Alors, ils ont été divisés en deux. Et ils ont été relogés, enfin, ils sont relogés en Algeco, dans lequel il fait très froid en hiver, très chaud en été, évidemment. Et tous les lieux collectifs ont été supprimés. Au foyer ADEF, il y avait une grande cuisine, une grande salle de réunion, tout ça. Et la pratique, c'était plutôt d'avoir des moments communs, de cuisiner ensemble, de partager, etc. Dans les nouveaux Algeco, tout ça, c'est supprimé. C'est des chambres qui sont en plus volontairement méandreuse pour éviter de pouvoir poser un matelas en plus, avec des petites kitchenettes dans lesquelles on peut cuisiner que pour soi et encore à peine. Donc ça, toutes les personnes donc, avec un titre ont été relogées dans ces Algeco, et les personnes qui n'avaient pas de titre, qui étaient logées par des amis, eux ont simplement été mis à la porte. Quand on parle d'expulsion pour les Jeux Olympiques, c'est compliqué de... Alors le foyer ADEF, c'est emblématique, donc on prend le temps de l'expliquer, mais en fait, c'est aussi toute une multitude de choses qui peuvent être vues ou pas forcément vues. Ce qu'on sait, alors vous avez peut-être vu, il y a un collectif qui est né là, il y a quelques semaines, qui s'appelle Revers de la Médaille, qui est un collectif, enfin, qui est un intercollectif avec des assos et collectifs qui font la distribution alimentaire, qui aident les personnes à la rue, et qui font le constat qu'à l'approche des Olympiques, les expulsions... Alors la préfecture appelle occupation illégale de l'espace public... Donc, vous prenez en fait des gens à la rue qui essaient de trouver des solutions. Donc, le harcèlement de l'occupation illégale de l'espace public est de plus en plus fréquent. Et d'ailleurs, quand on lit les dossiers de la préfecture, ils ne s'en cachent pas. Ils ont le plan zéro délinquance à l'approche des Jeux Olympiques. Et dans ce plan zéro délinquance, il y a marqué lutter contre l'occupation illégale de l'espace public. Donc, on voit en tout cas qu'à l'approche des Jeux, il y a un harcèlement qui est de plus en plus fort envers les personnes à la rue. Et d'autant plus les personnes migrantes qui sont d'autant plus expulsées. Là, bon, je ne vous parle pas de la loi asile immigration qui va encore plus les rendre précaires et fragiles.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le résumé de votre troisième journée des Jeux Olympiques. Aujourd'hui,
nous sommes en direct de la studio qui se déroule sur la patinoire de l'Oasis.
Les Américains qui allaient profiter ont réussi un joli carton gras.
Soviétiques s'appliquent, mais les Afghans pour plus longtemps. Question.
Elle est aujourd'hui encore à noyer à l'épreuve du water polo.
Oui, et bonsoir, c'était notre flash d'information spéciale et maintenant place à la musique.
Thierry Dandon, je suis le roi du sprint. Clôture électrifiée, le saut d'un coup de secret. 110 mètres haies, comme Jean-Jean Bélé barbelé. Ne pas croupir dans l'ombre, je sortirai du nom. Sourire belliqueux, qui pourrait faire mieux. J'attends ce moment depuis si longtemps. Je m'offrais du mort pour une médaille d'or. Pour une en argent, je donnerai mes 20 ans.
Pour une médaille d'or, pour une en argent, je donnerai mes 20 ans.
poursuivons l'écoute de cette rencontre autour des déroulements des Jeux Olympiques. Et cette rencontre se tenait à Saint-Denis le 11 janvier 2024 et ça avait comme thème « Rencontrer débat sur les saccages olympiques et paralympiques ».
On ne sait pas encore exactement combien d'étudiants et d'étudiantes sont concernés, mais une partie des logements CROUS vont être, des bâtiments, vont être vidés. Ils disent qu'une partie des étudiants quittent le logement CROUS, cessent le bail pendant l'été, et d'autres viennent au printemps, etc. Et donc il y a un taux d'occupation qui est ridicule pendant l'été, donc c'est une façon de complémenter. Alors évidemment, il faut lire entre les lignes, c'est que pour les Jeux Olympiques, ils veulent vider des bâtiments entiers. C'est-à-dire qu'ils veulent que ce bâtiment soit pour les Jeux Olympiques. Oui, il y a une certaine partie des logements qui sont vides, mais c'est des appartements par-ci par-là. C'est pas un bâtiment qui est vidé par magie, etc. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils expulsent. Enfin, ils disent ce bâtiment, on le réquisitionne, entre guillemets. Donc les étudiants qui sont là doivent être déménagés dans d'autres bâtiments. Et donc ça fait faire des déplacements pas possibles. Et notamment pour des personnes qui parfois vivent depuis 5, 6, 7 ans dans le même logement CROUS et qui ont leurs habitudes, qui ont leur. Mais bon, faut pas se prendre la tête puisqu'ils vont avoir 100 euros et une place pour les Jeux Olympiques.
Alors il y aurait 3000 logements CROUS qui auraient été effectivement qui seraient déménagés et ça serait en direction des pompiers, des gendarmes et des agents de sécurité.
Donc là, on parle des expulsions vraiment, disons un peu manu militari où c'est une expulsion vraiment visible, réquisition, etc. Mais on peut aussi parler de gentrification. Je vous parlais du village des athlètes, donc un village qui est construit pour les Jeux Olympiques, où le prix au mètre carré est déjà beaucoup plus haut que tout Saint-Denis, c'est 7500 euros le mètre carré, ce qui est à peu près 1000 euros plus cher que le mètre carré dans ce coin-là de Saint-Denis. Alors bon, je vous dis ça, et en fait là, les promoteurs se rendent compte qu'ils ont énormément de mal à vendre ces logements, donc les prix sont en train de diminuer. Mais on restera quand même au-dessus, largement, au-dessus des prix du marché. Sur la gentrification, toujours à Saint-Denis, ce que ça fait, vous savez que le marché de Saint-Denis a été déplacé, une partie du marché a été déplacée, pour faire un centre-ville, alors c'est ce que dit la mairie, hein, pour faire un centre-ville apaisé, forêt urbaine, etc. Bon, on sait qu'en fait, les vendeurs, les commerçants qui ont été déplacés, qui sont sur la nouvelle place, vendent beaucoup moins, hein, ça marche quand même beaucoup moins bien pour eux. C'est aussi une façon pour la mairie d'essayer de monter... de leur point de vue, hein, de monter en gamme, de vendre des choses plus haut de gamme. Et ils vous disent, la mairie, hein, que ce changement de place du marché n'a rien à voir avec les JO. Sauf que quand on regarde la com de la mairie, on voit qu'il y a les anneaux olympiques sur la flèche nouvellement construite de la basilique. Donc voilà, ça c'est encore une fois, tu parlais tout à l'heure, Colline, de petits trucs qui sont amusants à voir en parlant du Covid tout à l'heure. Voilà. Là aussi, c'est un petit truc qui est amusant à voir. D'un côté, la mairie nous dit qu'il n'y a aucun lien avec le déplacement du marché et l'arrivée des Jeux Olympiques. Et pourtant, dans les visuels, on a des anneaux olympiques et on sait que devant la basilique, il y aura des festivités, ils appellent ça, etc.
Et juste une petite précision par rapport à ce satané centre-ville que veut Hanotin, là. Il a aussi tout simplement supprimé trois lignes de bus qui permettaient aux habitantes et aux habitants des quartiers populaires, donc Floréal, Saussée, La Courtille, La Plaine, de venir en centre-ville, en fait. Donc depuis, c'était 70 ans, une interruption provisoire de ces lignes. En fait, ils ont enlevé les arrêts de bus. Il n'y a plus les lignes de bus. Ils veulent mettre des trucs à vieux, des espèces de traversées, là. Des tout petits bus où on met 15 personnes dedans alors qu'il y a 50 personnes qui arrivent. Donc, en fait, tous les quartiers les plus excentrés de Saint-Denis, les habitants et les habitantes peuvent plus venir se soigner, venir faire leurs courses. Et soi-disant, pour un truc écolo, il n'y a plus de transport en commun, quoi. Donc, il y a un collectif d'habitantes, parce que c'est les femmes, bien sûr, qui se coltinent le plus les courses, les machins, les bidules, le quotidien, qui essayent de combattre des décisions de la mairie.
Il n'y a rien d'écolo dans ce projet. Il n'y a strictement rien d'écolo. Il n'y a même pas une apparence de discours écolo. Il ne faut pas faire semblant qu'ils cherchent à promouvoir une écologie en ville. Ils déplantent autant qu'ils replantent et ils plantent des arbres trop jeunes pour qu'ils soient intéressants pour nous si vite, etc. etc. Voilà pour les arbres. Mais supprimer les transports publics, les transports en commun, c'est tout sauf écologique et donc c'est même pas une apparence de volonté de sa part. La contrepartie qui est plus ou moins discutée, à ma connaissance, qui est celle apportée par le collectif que tu citais, est pas du tout sûre encore. C'est encore tout à fait en projet, à l'étude. Il n'y a rien de définitif dans les navettes qui sont envisagées. Et ce qui était vaguement envisagé, c'est des navettes sur réservation, les jours ouvrables de semaine. Voilà.
Un petit mot sur les conditions de travail et le travail en général. Vous savez malgré tout qu'une charte sociale a été signée entre le COJOP et donc le Comité international des Jeux Olympiques et une partie des syndicats, bon en gros tous sauf Solidaires et CNT, qui ont signé un genre de grande direction qui dit que pour les Jeux Olympiques on fera attention aux conditions de travail, etc. etc. Bon, ce qu'on sait, c'est que dans la loi olympique 2, parce qu'il y a des lois qui passent pour permettre les Jeux Olympiques de se dérouler, dans la loi olympique 2, il est question de faciliter le travail le dimanche. Alors, pendant la période des Jeux, évidemment, mais on sait que les lois qui passent pour une période souvent restent après ou alors sont pérennisées. Sur le BTP, évidemment, on peut pas ignorer ce point-là. Et il y a eu, pour l'instant, il y a eu un mort quand même sur un chantier Jeux Olympiques à Austerlitz pour créer un bassin justement pour de la baignabilité de la Seine. Donc, ils créent un énorme bassin pour conserver les eaux de pluie, pour pas que quand il pleut, l'eau des égouts aille directement dans la Seine. Et donc, pour conserver, il y a eu un mort sur la construction de ce bassin à Marat Diomassi en juin 2023. Et donc, en fait, sur les chantiers JO, on a les mêmes contraintes que sur tous les chantiers du BTP. Donc, c'est un secteur qui est très accidentogène. Sauf que le problème des chantiers Jeux Olympiques, c'est qu'on a une deadline qui est très serrée. Il faut aller très vite. Et d'ailleurs, sur certains chantiers des JO, quand vous rentrez, il y a un chrono à l'entrée. Tous les matins, vous arrivez X jours avant les Jeux Olympiques. X jours avant les Jeux Olympiques. X jours. Donc voilà, on met une pression aux salariés. Donc, des délais très courts. Énormément de coactivité. Donc, ils sont très nombreux sur les chantiers. Donc finalement, c'est les deux facteurs les plus accidentogènes, donc beaucoup de coactivité et un rythme très rapide. Et malgré le fait qu'il y ait une attente toute particulière des donneurs d'ordre, etc., pour surtout pas qu'il y ait d'accidents sur les Jeux Olympiques, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'accidents. Et évidemment aussi, donc là c'est toujours sur les conditions de travail aussi, l'emploi de travailleurs sans contrat, sans papier. Et là on l'a vu, donc une partie des travailleurs ont fait grève là, à l'Arena, et évidemment quand ils font grève le chantier s'arrête hein. Il y a les bénévoles aussi sur un autre sujet. Donc vous savez que pour faire les Jeux Olympiques on va mobiliser 45 000 bénévoles. Ça vous a pas échappé, ils essaient de trouver des bénévoles surtout chez les personnes éloignées de l'emploi, sans emploi, étudiants, étudiantes, etc. Nous on analyse ça comme étant une façon de plus de mettre les personnes non productives aux yeux de l'État, les mettre un peu travail de force finalement, quoi.
Travail gratuit.
Parce que bon, on a compris quand même que les JO, c'était pas non lucratif. Hein. Donc c'est 45 000 bénévoles qui vont travailler pour le COJOP et le CIO. Et notamment, des bénévoles vont travailler pour Omega. Omega, vous l'avez vu dans la fiche des sponsors, Omega, c'est ceux qui font les chronos. Et donc, il y a des bénévoles qui vont être sous les ordres d'une entreprise privée. Donc ça, c'est quand même assez fort. Le service civique aussi, évidemment, il y a énormément de services civiques sur les chantiers JO. On dit que les JO créent de l'emploi, évidemment c'est faux, ça crée de l'emploi sur les secteurs en tension, le BTP notamment, à très court terme, et après les JO, il n'y a aucun effet sur le long terme. On sait aussi que les Jeux Olympiques, alors on dit que ça va créer de l'emploi, notamment grâce au tourisme, on sait que les Jeux Olympiques, ça ne crée pas plus de tourisme pour une ville touristique comme Paris, ça va créer aucun effet sur le tourisme, juste ça va le concentrer. Sur deux fois deux semaines. Parce qu'il y a un effet d'éviction, c'est-à-dire que les touristes JO chassent les touristes classiques qui viennent pour visiter Paris. Saccage écologique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un truc qui est beaucoup traité, qui est un des points les plus évidents, je pense, des Jeux Olympiques. Paris 2024 se pavane d'utiliser 95% de sites existants. Vous l'avez peut-être vu passer, ce chiffre, c'est important de le débunker. Quand ils disent que les JO utilisent 95% de sites existants, ils ne comptent pas le village olympique, le village des médias, et ils comptent pas les infrastructures temporaires qui parfois impliquent des chantiers, notamment je pense à Vert-Torcy, où là l'épreuve il y aura d'aviron, les épreuves d'aviron, c'était dans le 7-7. où ils détruisent une roselière, où ils font un terrassement, voilà, où il y a quand même énormément de chantiers, c'est pas compris dans les 95%. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Évidemment, ils calculent pas les déplacements des athlètes. Monsieur en parlait tout à l'heure, 15 000 athlètes, leurs familles qui vont se déplacer, les touristes, etc. Bon, les trajets en avion, évidemment, sont pas comptés. On se rend compte aussi, ça je pense que c'est intéressant à voir, c'est que dans Paris Intramuros, il n'y a quasiment aucune infrastructure pérenne, à part à Porte de la Chapelle, alors que dans le 93, c'est là qu'il y aura toutes les structures pérennes, où il y a la destruction d'espaces verts. Donc là, justement, pour rentrer un peu dans le détail, les Jeux Olympiques dans le 93, c'est la destruction de 7 hectares à l'Aire des Vents, dans le parc de la Courneuve, qui ont été détruits pour construire le village des médias. C'est 6 000 m2 de jardins ouvriers qui ont été détruits à Aubervilliers. 6 000 m2 de jardins ouvriers qui ont été détruits à Aubervilliers. Alors, ça ne sera pas construit, parce que vous savez, on a gagné en justice contre GPA. Donc, ça ne sera pas construit pour construire le solarium de la piscine d'entraînement olympique, mais ça a quand même été détruit. On a gagné trop tard. On a gagné quand même, hein, c'est quand même une victoire, mais un peu tardive. Et évidemment, toutes les modifications urbaines, où, là, je pense au village des athlètes, où avant, c'était pas un espace vert, hein, c'est clair, faut pas se mentir. C'était plutôt industriel, entreprise, etc. Mais bon, c'était quand même des bâtiments qui étaient assez bas, assez peu denses. Et là, je sais pas si vous êtes passé dans le village des athlètes, mais c'est des bâtiments qui font pas jusqu'à 8 étages. Hein. Enfin, ça va rajouter énormément de densité. Voilà, je rentre pas trop dans le détail. Bon, il y a le quartier Pleyel, évidemment, où vous connaissez, c'est un échangeur autoroutier qui va encercler une école de 600 enfants. Bon, là, ça se passe d'explication. Groupe scolaire, ouais. Maternelle et élémentaire. Échangeur qui servira à ce que les athlètes ne soient pas en retard pour leurs épreuves, hein, pendant les Jeux Olympiques. Et puis, après les Jeux Olympiques, évidemment, c'est un argument de vente pour vendre les logements. C'est-à-dire qu'un logement se vend plus cher à condition qu'il y ait une station de métro et un accès rapide à la francilienne, au périph, à la 1, etc. Ça va ? Peut-être toi, je pense que tu connais mieux Pleyel que moi. Ça va, je dis pas de...
Dernière nouvelle, ils vont mettre des purificateurs d'air et dans le village des athlètes et aussi dans le groupe scolaire. Et donc, un petit peu pour faire tomber cette critique qui... était très forte, en particulier portée par la Fédération des parents d'élèves du groupe scolaire, de pollution et de destruction de ces jeunes poumons, aussi bien de maternelle que d'école élémentaire, qui se trouvent encerclés par les échangeurs autoroutiers.
En avant-dernière partie, donc, sur la démocratie, la surveillance, etc. Alors, ils disent que les JO sont un accélérateur. Vous avez vu le slogan accélérateur d'histoire, etc. Ça, nous, on signe, on est d'accord. Hein, les JO accélèrent, et notamment accélèrent aussi les politiques de militarisation de la société, de surveillance. Donc, il y a la loi Olympique 2 qui est passée, je le disais tout à l'heure, en avril 2023. Vous connaissez peut-être l'article 7 de la loi Olympique 2, évidemment, qui est un article qui permet la vidéosurveillance algorithmique. Donc je sais pas si ça parle à tout le monde, en gros comprenez que les caméras de surveillance qui sont partout, là jusqu'à présent, soit comme à Saint-Denis il y a des personnes dont le travail c'est de regarder les caméras et de regarder s'il se passe des choses, bon, grâce à cet article, la vidéo surveillance algorithmique pourra être utilisée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra mettre un logiciel d'intelligence artificielle derrière ces caméras qui pourra par exemple identifier des comportements anormaux. Donc ça veut dire quoi, un comportement anormal? C'est quelqu'un peut-être qui va marcher à contresens dans le couloir ou sur le trottoir. Ça peut être un groupe qui se constitue sur l'espace public. D'un coup, il y a 3-4 personnes qui se retrouvent. Tiens, c'est bizarre. Ça peut faire une alerte. Et donc comme ça, la personne qui est derrière l'écran, elle va être aidée finalement par un logiciel qui va dire « Tiens, regarde, il y a ça qui est bizarre. Tiens, là aussi, il y a quelque chose qui est bizarre. » Ça, c'est une chose. Et on peut aussi aller vers des choses qui vont se rapprocher de la reconnaissance faciale, on n'y est pas encore, mais qui peuvent se rapprocher, en demandant par exemple au logiciel de faire une alerte à chaque fois, ou de suivre quelqu'un qui a un haut rouge et un bas vert, par exemple, ou qui a une veste de tel type, ou qui a un bonnet de tel type, ou qui est en vélo, ou qui est nanana, ou qui a telle plaque d'immatriculation. Et donc d'ailleurs, les promoteurs des JO et le gouvernement se pavanent et disent non, il n'y a pas de reconnaissance faciale, rassurez-vous, tout va bien, passez votre chemin. Mais en fait, on s'y rapproche avec des outils qui sont quand même très similaires. Et les logiciels qui sont utilisés pour la vidéosurveillance algorithmique, donc la couleur des vêtements, les comportements anormaux, etc., sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour la reconnaissance faciale. Il y a juste qu'à cocher une case, hein, notamment le logiciel, j'ai oublié le nom, c'est un logiciel israélien, hein, et il y a une cache à cocher, et ça y est, on peut faire de la reconnaissance faciale. Donc, bon, on ne s'inquiète pas, on sait que la police est très rigoureuse et il n'y aura pas d'abus. La reconnaissance faciale a été utilisée à Tokyo et à Los Angeles, hein, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas le coup d'essai. Hein. Bon, après, il y a aussi les scanners corporels qui pourront être utilisés à l'entrée des sites d'épreuves. L'article 12 de la toujours loi olympique 2 qui permet, qui crée une sanction pénale au fait de rentrer dans des épreuves sportives, au fait de gêner le bon déroulé d'une épreuve sportive, c'est devenu du coup un délit pénalement. C'est 3750 euros d'amende. Vous savez qu'à Saint-Denis, je crois qu'il double le nombre de triples, je sais plus exactement le nombre de caméras de surveillance pour les Jeux Olympiques. Oui, 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 il les laisse après, bien sûr. Oui.
Et alors, je mentionne un élément dont on a peu entendu parler, va aussi être ouvert à Saint-Denis un COT, un centre d'opération technologique, qui aura pour but d'agréger les données de la billetterie, des résultats sportifs à l'intérieur des stades, dans un seul lieu, pour le traitement, la publication des résultats, etc. Un lieu à Saint-Denis et deux lieux à Barcelone, visiblement, avec Atos en chef de projet, si je peux dire. Et donc ça, moi, je pense qu'il est intéressant d'avoir une vigilance sur ce que pourrait devenir ce centre d'opérations technologiques après les JO. J'en ai pas idée, mais vigilance, centre d'opérations technologiques, qu'est-ce que ça peut devenir ?
Je continue un peu sur les lois. La loi olympique 1 permettait l'exonération d'impôts pour les organisations de grands événements sportifs. Okay, le CIO n'est pas imposé en France, évidemment. Aussi dans le contrat ville haute, qui est un contrat qui a été signé par la ville, le gouvernement et le CIO, s'il y a dépassement de budget, il est écrit que c'est le gouvernement français qui s'engage à combler s'il y a déficit, hein, faut pas que le CIO perde de l'argent. Et le contrat ville haute, c'est un contrat qui peut être modifié de façon unilatérale par le CIO. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas en droit français, donc c'est quand même intéressant de voir qu'on a signé un contrat unilatéral avec... Toute dernière partie rapide sur les valeurs du sport olympique. Nous, à Sakai 24, on n'est pas sur cette ligne-là, mais on va quand même, et ça c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement dans le collectif, aussi s'interroger sur qu'est-ce que portent les Jeux Olympiques comme valeurs. Déjà, alors c'est vrai que là je ne l'ai pas tant fait dans la présentation, mais dans nos visuels, dans notre communication, on essaie de le faire au maximum, c'est toujours d'inclure les Paralympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on est aussi contre les Jeux Paralympiques, et ça, faut pas l'oublier. Et parce qu'en fait, les Jeux Paralympiques ont les mêmes effets que les Jeux Olympiques, donc c'est pas une raison de les oublier. Et aussi, nous, on aime bien aussi le rappeler que c'est parce qu'il y a des Jeux Paralympiques que, du coup, les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc, sont exempts de toute violence validiste, donc de violence sur les personnes qui portent un handicap. Parce qu'en fait, on se rend compte, et ça, on a discuté notamment pas mal, il y a une brochure qui est en cours d'écriture sur ce sujet-là, en discutant avec des collectifs de personnes en situation de handicap, qui racontaient que, en fait, les Jeux Paralympiques, c'est analysé par eux comme du motivation porn. Donc, en gros, une façon de créer de la motivation pour les personnes valides en utilisant les personnes non valides. Vous voyez, en fait, ce cliché hein, de la personne qui va traverser la Manche avec... un handicap et oh regardez comme c'est motivant, regardez comme c'est inspirant pour nous personnes valides. Donc voilà. Et donc c'est une façon finalement d'instrumentaliser, d'essentialiser les personnes non valides. Et donc les Jeux Paralympiques sont clairement dans cette dynamique-là. Mais on peut aussi dire que les Jeux Olympiques sont sexistes. Un exemple qui est frappant, c'est les tests de féminité. Vous savez qu'il y a les épreuves masculines et féminines. Encore aujourd'hui, pour les personnes dites suspectes, donc le CIO ou les fédérations peuvent imposer des tests de féminité. Alors c'est quoi ? C'est aux femmes, évidemment aux femmes. Et en fait c'est de tester la présence ou pas du chromosome X ou Y, je sais plus. J'ai fait ES. pour voir si cette personne est, mais génétiquement. Là c'est la présence ou pas du chromosome. Les taux de testostérone étaient utilisés, mais c'est plus trop utilisé. Et avant ça c'était visuel, c'est-à-dire que les personnes se présentaient devant un médecin et puis ils devaient se déshabiller. Ça n'existe plus trop. Mais voilà, ou les personnes trans, etc., qui sont complètement invisibilisées, qui sont méprisées hein, par les Jeux Olympiques. Le racisme aussi, hein, les JO portent aussi du racisme en eux. Alors déjà, il y a évidemment l'histoire des Jeux Olympiques. Hein, vous connaissez l'histoire des Jeux Olympiques de 1936, les Jeux de Berlin, organisés par Hitler, vantés par Pierre de Coubertin, comme étant des Jeux Olympiques que Hitler avait parfaitement compris l'esprit des Jeux Olympiques et l'essence des Jeux Olympiques avec les Jeux de 1936. Vous connaissez peut-être aussi donc, les présidents du CIO successifs, donc Coubertin, j'en ai parlé, j'arrive jamais à prononcer ce nom, Brundage, l'ancien président du CIO, qui aussi était ouvertement antisémite, raciste, etc. On sait qu'il y a eu des propos racistes au sein de la Solideo qui ont été dits, notamment « Ah non, on ne veut pas que le siège de la Solideo soit en Seine-Saint-Denis parce que les femmes vont se faire agresser ». Ça, c'est quelque chose qui a été entendu dans le bureau du Solideo. Et puis bon, évidemment, il y a tout un côté géopolitique avec les Jeux Olympiques, où je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En tout cas, voilà, sur les valeurs des Jeux Olympiques. Et je pense que si on devait conclure, le slogan des Jeux Olympiques, c'est « plus haut, plus vite, plus fort ». Et si le capitalisme devait avoir un slogan, ou en tout cas, s'il y a quelque chose contre lequel on devrait lutter, c'est bien ça, c'est « plus haut, plus vite, plus fort ». Voilà, juste un dernier mot, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors évidemment, c'est que vous organisez entre vous, créer des mini-collectifs ou autres, rejoindre les initiatives que nous, on peut partager, etc. Là, on a quand même les Jeux Olympiques d'hiver qui risquent d'arriver. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Pour l'instant, les Alpes sont les seuls candidats et sont les seuls qui sont en dialogue ciblé avec le CIO. C'est-à-dire que là, le CIO et la région Aura et PACA sont en train de discuter de concrètement comment on va faire. Il n'y a pas d'autres candidats. Mais on n'a pas encore officiellement les Jeux Olympiques. Ça sera en début juillet, fin juin, qu'on va réellement signer ou pas l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Donc c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, et ça passe par mille façons. Ça peut être de faire peur aux entreprises sponsors, par exemple, pour les décourager d'être sponsors, et s'il n'y a plus de sponsors, c'est un peu compliqué. C'est d'être solidaire des luttes, être attentif aussi, donc continuer à faire de la veille sur qu'est-ce que font les JO sur le territoire, et après, toutes les idées sont bonnes à prendre.
En début d'émission, nous avons entendu la voix de Pierre de Coubertin et sa relation aux femmes dans le sport. On va creuser un petit peu plus cette figure. En effet, le baron Pierre de Coubertin est né le 1er janvier 1863 à Paris et il est mort le 2 septembre 1937 à Genève en Suisse. Historien et pédagogue français fortement influencé par la culture anglo-saxonne et a particulièrement milité pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires français. Dans ce cadre, il prend part à l'éclosion et au développement du sport en France dès la fin du XIXe siècle, avant d'être le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1894 et de fonder le Comité International Olympique, dont il est le président de 1896 à 1925. Durant cette période, il dessine les anneaux olympiques et installe le siège du Comité International Olympique à Lausanne en 1915. Il milite également pour la création des Jeux Olympiques d'hiver, dont la première édition a lieu à Chamonix en 1924. Derrière l'olympisme, un réactionnaire, fervent partisan de la colonisation, dès les premiers jours, il dit « j'étais un colonial fanatique ». Il voit dans le sport, à l'instar de nombreuses élites de la Troisième République, un instrument utile de disciplination des indigènes. Coubertin, de surcroît, semble clairement raciste. Il dit « les races sont de valeurs différentes et à la race blanche d'essence supérieure. Toutes les autres doivent faire allégeance. » Mais à propos des journées anthropologiques, compétition réservée aux représentants des tribus sauvages et non civilisées, organisées lors des Jeux de Saint-Louis, il s'oppose à ce qu'il appelle une mascarade outrageante qui, ajoute-t-il, se dépouillera naturellement de ses oripeaux lorsque ses noirs, ses rouges, ses jaunes apprendront à courir, à sauter, à lancer et laisseront les blancs derrière eux. Une vision inégalitaire du monde ne se limite d'ailleurs pas au seul domaine ethnique et frise parfois l'eugénisme. Pour lui, toute société est divisée entre fort et faible. Il y a deux races distinctes, celle du regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée, et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l'air vaincu. Eh bien, c'est dans les collèges
comme dans le monde, les faibles sont écartés. Le bénéfice de cette éducation n'est appréciable qu'aux forts. Voilà qui était Pierre de Coubertin, à qui l'on doit ces Jeux Olympiques. Nous.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastule à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.